Oui, oui, ce serait nationaliser les autoroutes. Par contre, il est toujours prévu de privatiser l'audiovisuel public ORN. Merci Léonidas Kalogeropoulos de m'avoir corrigé pendant le sommaire.
Merci Bolloré surtout.
Bonjour Benjamin Coria, professeur de sciences économiques à Paris 13, membre du comité d'animation des économistes atterrés. Vous avez publié Le bien commun, le climat et le marché, réponse à Jean Tirole aux éditions Les liens qui libèrent. Léonidas Kalogeropoulos, bienvenue.
Bonjour.
Vous avez publié une chronique avec Pierre Gattaz qui s'intitule « Pour gagner ». Les partis de gouvernement doivent s'engager sur des réformes radicales, sans quoi le radicalisme des extrêmes, les extrêmes l'emporteront. Et donc vous dites, dans cette chronique, c'est bien beau de dénoncer les programmes à droite ou à gauche, mais encore faut-il avoir des choses à proposer en face. Parce qu'on ne peut pas faire comme si les attentes de l'opinion publique devaient être passées sous silence, et donc il faut y apporter des réponses. Vous êtes également délégué général de l'Open Internet Project et fondateur des Entrepreneurs pour la République. Laurent Vronsky, bonjour.
Bonjour à tous.
Directeur général d'Hervor, secrétaire général de Croissance Plus, membre du comité stratégique des écoles Espérance Banlieue. Les principales mesures du côté des dépenses. On abroge la réforme des retraites, on revient à 62 ans avec un objectif 60 ans, on verra, et 40 annuités. Le minimum vieillesse monte au seuil de pauvreté à 1 200 euros. Le SMIC augmente de 200 euros net à 1 600 euros. Les salaires sont réindexés sur l'inflation, donc payés par les entreprises. Le point d'indice des fonctionnaires augmente de 10% tout de suite. Les APL augmentent de 10% tout de suite. Il y a un revenu d'autonomie pour les plus de 18 ans qui sont sous le seuil de pauvreté. Nous allons progressivement vers la gratuité totale de l'école, ça veut dire gratuité des fournitures, des cantines, des transports. Nous allons vers la gratuité des premiers kilowattheures consommés. Je ne sais pas trop comment ça s'incarne ensuite. Les prix des produits de première nécessité et des énergies sont bloqués. Et au face, du côté impôt, c'est le retour de l'ISF, sans doute dans une version élargie. 14 tranches d'impôt sur le revenu pour davantage de progressivité, une CSG progressive, une hausse des cotisations retraite payées par l'ensemble des actifs, une taxation des super-profits, une taxation des transactions financières, une taxation des heures supplémentaires, une hausse des droits de succession, avec l'instauration d'un héritage maximum, comme Jean-Luc Mélenchon l'avait voulu en 2022. À l'époque, il disait au-dessus de 12 millions d'euros, je prends tout. Taxation kilométrique sur les produits importés, avec une connotation green, et puis un réflexe protectionniste avec la sortie des traités de libre-échange.
Avec ça,
Léonidas.
Plus d'investisseurs, plus d'économie, écroulement de la bourse, fuite des capitaux. C'est un moment où c'est utile quand même de rappeler qu'il y a des gens raisonnables, qu'il y a des boîtes qui grandissent, que l'économie a des fondamentaux. En revanche, ce que je trouve très préoccupant dans tout ce délire, c'est que c'est un délire qui vient essayer de répondre avec une avalanche de taxes et de dépenses nouvelles dans lesquelles l'épicentre de tout est effectivement l'État, qui vient répondre à une détresse des Français. Et je pense que si on ne se contente que de dénoncer le délire qui est effectivement caricatural de ces propositions, en disant en substance, nous on est raisonnable, donc renouvelez-nous la confiance dans le pôle raisonnable central.
Que vous expliquez dans la chronique.
Oui, on ne va pas passer sous silence la raison pour laquelle les deux extrêmes sont à ce niveau-là. On a plus de 60% des Français qui votent pour des extrêmes et des programmes délirants. Ça veut dire qu'il y a dans le pays une insatisfaction qui est réelle. Et si on ne l'écoute pas pour y apporter des réponses raisonnable, certes, mais il y a apporté des réponses.
Ce que vous proposez. Hein,
c'est, en tous les cas, c'est la fin de la démocratie. Le moment qu'on a devant nous, c'est un moment de démocratie. Donc, on a des programmes délirants pour répondre à la détresse. Ce que l'on attend, c'est qu'il y ait des programmes raisonnables pour répondre, effectivement, à cette détresse des Français.
On verra ce que dit Gabriel Attal. Je vais donner la parole à Laurent Vronsky avant de faire réagir Benjamin Coria. Le côté, à ma droite, des entrepreneurs. tout le monde a une forme de certitude. C'est que, de toute façon, comme on dit souvent, on fait campagne en vert, on gouverne en prose. Et regardez, le RN commence déjà à reculer en se disant on va quand même pas promettre la lune sans pouvoir la décrocher. Mettons sous silence et mettons fin à certaines mesures qui seraient quand même très très compliquées à financer. On le sait bien. Et donc tout le monde se dit que Mitterrand 81, Jospin 97, Tsipras 2015, Mélenchon 2022, l'histoire se répétera. Et que très vite, l'économie se venge toujours. Donc la réalité reprendra ses droits et qu'énormément de ces mesures ne verraient pas le jour. Bon, c'est un reste un peu de la spéculation. Laurent Vronsky, votre réaction par rapport... J'ai parlé là de NFP, on pourra parler si vous voulez du RN, on l'a fait la semaine dernière. Mais comment réagissez-vous?
Bah,
Je vais jeter un petit regard optimiste.
Allez-y, allez-y.
Dire qu'en ce moment, on en manque. Je me dis, mais c'est dingue, finalement. Il y a encore une semaine, tout le monde se grattait la tête pour faire des économies, et puis on avait peur de pas passer le budget, et on essayait de se dire qu'est-ce qu'on va faire en 2025, etc. Et puis là, finalement, je me dis, mais moi, j'ai rien compris. On est dans un pays extrêmement riche, avec tous ces programmes, tous ces milliards qui pleuvent. À une époque, l'unité, c'était le milliard. Maintenant, c'est par 10 milliards, 100 milliards. Je me dis, écoute, Laurent, t'as rien compris. Finalement, on est dans un pays qui est super riche pour qu'on puisse se permettre ces choses-là. Bon. Alors maintenant, passer mon petit quart d'heure impertinent. Moi, je regarde le côté économique de la chose.
On est là pour parler d'économie, si vous le savez.
On est là pour parler d'économie. Donc ça, je ne partage pas mes convictions politiques. Mais je pense que des deux côtés, les mesures sont complètement intenables. Alors, ce que vous dites est exact. Effectivement, on peut avoir des gens qui vont boire un petit peu trop et puis avoir une gueule de bois. La question, c'est combien de temps ça dure. Je rappelle quand même qu'on est dans un environnement international qui est extrêmement tendu, extrêmement fragile, au niveau géopolitique, au niveau économique, et que donc, on peut avoir des poussées de fièvre à court terme qui peuvent être mortifères. Il ne faut pas croire un instant qu'on peut mettre en œuvre des programmes économiques qui sont tels que ceux que vous avez décrits, et puis que 4 mois plus tard, on va faire machine arrière, et puis on va revenir à une situation normale et on va rentrer dans le rang. C'est pas du tout comme ça que ça va se passer.
Très douloureux.
Alors, je fais réagir Benjamin, juste pour aller dans le sens de ce que vous disiez, il y a un point important sur le programme du nouveau Front Populaire, c'est qu'il est en 3 temps. Il y a on arrive et tout de suite on fait ça, il y a ensuite, bon, sur une durée 100 jours, et au-delà de ça, le truc c'est que dans le premier temps, les 15 premiers jours, c'est là où il y a l'abrogation de la réforme des retraites par décret, donc quand on a abrogé les 64 ans, qu'on est revenu à 62, on peut pas expliquer aux gens 4 mois plus tard, finalement, voilà. il y a également la hausse de 10% du point d'indice. Quand on aura dit aux fonctionnaires, on vous a donné 10%, on leur dira pas 4 mois plus tard, c'est fini. Il y a pareil pour les APL et la hausse du minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté à 1 200 €. Pareil, on dira pas aux titulaires de minimum vieillesse à 1 200 € que finalement ils reviennent aux alentours de 1 010 ou 1 015 €. Bon, par rapport à ce qui a été dit, Benjamin Coria, comment réagissez-vous de votre côté?
Je vais commencer par 2 préliminaires. Allez-y. Le premier, c'est, je vais rebondir sur ce que vous dites. On a l'impression qu'on est dans un pays riche, etc. Non, on n'est pas dans un pays riche, malheureusement. On est dans un pays qui a échoué. On est dans une politique économique qui a échoué. Alors, je vais vous rappeler quelques fondamentaux, parce que vous avez l'air de pas les avoir en tête. La dette a explosé. Le déficit budgétaire, il est à 5,2. Le commerce extérieur, on l'a jamais eu à ce niveau-là. Et on vient d'être dégradé. Donc, du point de vue des agences de notation, Dieu sait que je les adore pas, mais enfin, quand même, vous devriez leur accorder de l'importance. Bon, donc on a échoué lamentablement sur le plan économique. Et sur le plan politique, je dis même pas, hein, puisque l'opération de constitution du centre, elle s'est traduite par la reconstitution de 2 blocs. Bien. Et l'opposition droite-gauche n'a jamais été aussi violente. Donc on est en déroute, vous êtes en déroute, ceux qui ont soutenu ce programme politique et ce programme économique. Bien, ça c'est le premier point. Le deuxième point, le programme du nouveau Front Populaire.
Oui.
Est-il un programme de rupture? Oui.
Ah oui, oui.
Oui.
Ah oui.
Non, mais oui.
Oui, oui.
Mais, mais assumé comme tel.
Ah non, non,
mais assumé comme tel.
Ah non, mais
alors,
okay, c'est un programme
alors,
de rupture.
Deux choses. Premièrement, vous l'avez dit, ça s'échelonne en 3 temps.
Oui.
Hein, et donc tous les chiffrages de tous les docteurs.
On va dire que c'est en année pleine. Voilà.
Laissez-moi finir.
Oui, oui, je vous laisse.
Tous les chiffrages de tous les docteurs Diafoirus qui nous ont conduits là où nous sommes, ou rien, pour moi c'est pareil. Parce que si. Ils avaient été capables de chiffrer à temps le désastre dans lequel on serait conduit, et s'ils l'avaient dit, peut-être qu'on l'aurait évité. Donc je veux dire, ce qu'ils disent ou rien, c'est pareil. De toute façon, c'est les choses qu'on a déjà entendues, qu'on réentendra chaque fois qu'il y aura une perspective de gauche dans ce pays. Et il y a eu 81, et juste après, il y a eu... Enfin, 7 ans après, il y a eu 88. Le même. Bon, donc je veux dire...
Entre-temps, il y a eu 80
non, mais je vais, dire, je vais vous dire une chose, on est blindé, on les connaît ces histoires, qu'on va dans le précipice, que ceci, que cela. La situation aujourd'hui de la France a l'air d'inquiéter personne, à droite. Bon, moi, si j'étais à la place des responsables économiques et politiques de droite, je serais quand même très, très inquiet de ce qu'on a fabriqué. Bien, alors, comment dire Je dis pas que...
Mais au-delà de dénoncer l'échec...
Ça y est, non mais, oui. On est en situation d'échec, donc une rupture est nécessaire.
D'accord, une rupture est nécessaire.
Bien. Alors, maintenant, qu'est-ce que je pense ? Le détail de chacune des mesures, etc., on peut en discuter à l'infini. La philosophie, elle est extrêmement claire. La dernière fois que je suis venu ici, j'avais employé une expression qui vous a fait tiquer.
Allez-y.
J'avais dit, on ne peut pas rester dans le désordre fiscal actuel. Je maintiens. Hein, l'état du système fiscal français, avec la situation qui fait aux revenus du capital, aux grandes entreprises, aux milliardaires, etc., alors qu'il y a ce niveau d'inégalité, et alors qu'on a devant nous la transition écologique, c'est une situation fiscale complètement inappropriée, complètement à côté de la plaque, et qui ne réussit même pas à nous faire tenir dans la conjoncture. Je parle même pas de l'avenir. Bon. Donc il faut un choc fiscal.
Il y est.
Il y est. Alors, maintenant, la question... Alors, on peut faire plein de reproches à la gauche, mais à la différence du programme, par exemple, du Front National, c'est que l'idée du choc fiscal, elle est à la base... du programme. Est-ce que ce choc fiscal... Alors, après...
Benjamin Cœur, il y a après, attendez, terminé, Benjamin, et on passe après, à... Mais terminé.
Après, tout va être bon. Une question de... Moi, je ne dis pas du tout que c'est garanti qu'on va y arriver. Hein. Je ne dis pas ça. Hein, vous voyez, hein. Bon, tout va être une question de cadencement.
D'accord.
Hein, c'est-à-dire, dans quel ordre on va faire les choses, comment on va les financer. Voilà. Alors, il y a, sur les premiers 100 jours, il y a des dépenses, mais il y a des recettes. Parce que, sur les premiers 100 jours, une partie du choc fiscal être réalisée. Toute la question, comme pour toute politique économique, hein, ça va être les conditions, c'est le fine-tuning, ça va être les conditions dans lesquelles, au fur et à mesure qu'on engrange des recettes, on fait des dépenses, ou à l'inverse, d'accord, comment certaines dépenses peuvent générer des recettes. Parce que les non.
Oui, mais je vous entends, Benjamin.
Les hausses de salaire, c'est de la demande effective et c'est des recettes fiscales.
Benjamin Coria, je suis désolé, c'est bien que l'on ait ces contradictions, enfin, tant mieux que l'on puisse avoir sur cette antenne des débats. En tous les cas, ce que vous dites en nous adressant à Laurent Wronski et à moi-même, en disant votre politique, moi je défends une chose ici, c'est la seule, c'est les entrepreneurs et l'entreprise. Et sa capacité à produire des richesses et à distribuer du pouvoir d'achat et à faire croître notre pays. Et de ce point de vue-là, vous ne pouvez pas dire que la totalité de la politique qui a été menée est à l'échec. Parce que globalement, non pas qu'il y ait une satisfaction généralisée des entrepreneurs sur tous les fronts, mais globalement, on avait de la visibilité et on avait globalement le sentiment que nos interlocuteurs se disaient, s'il y a des entrepreneurs qui sont préoccupés par un certain nombre de sujets, il faut en tous les cas l'écouter. Vous êtes en train de dire que tout ça, faut en faire table rase, qu'il faut un choc fiscal dans lequel tout ce qui était de la visibilité doit être remis en cause. Ça fait fuir les investisseurs, ça fait fuir les entrepreneurs, ça fait fuir tous ceux qui nous ont prêté de l'argent avec une situation qui est dégradée. Moi, je ne vais pas vous dire que la situation du pays est idyllique. Si elle était idyllique, il n'y aurait pas deux extrêmes à 30% de part et d'autre. Donc, ça, je sais qu'elle n'est pas idyllique et je sais qu'il y a des choses à corriger. En revanche, que vous vous adressiez, que vous pointiez du doigt les acteurs économiques en disant on va les taxer, on va les contraindre, on va mettre globalement toutes les solutions qui vont passer par l'État, ponctionner pour remettre ailleurs, c'est juste casser l'économie. Et je ne vois pas comment vous allez pouvoir mener une politique de gauche qui peut avoir ses vertus en ayant cassé l'économie. Et ça, je vous demanderais, puisque vous êtes économiste, de nous expliquer comment l'économie et les entreprises survivent, non pas aux 3 mois, mais déjà aux 15 premiers jours de ce programme. Moi, je ne le vois pas.
Alors justement, Léonidas Kalogiropoulos, sur la question du fine-tuning qu'évoquait Benjamin Coria, le moment où on engage les premières mesures, comment on finance ces premières mesures à ce moment-là, pour voir après comment on fait. Bon, Aurélie Trouvé, qui est la personne au sein de NFP, qui est chargée de la réalisation de ce programme et de son chiffrage précis, qui n'a pour l'instant pas été totalement dévoilé, est quelqu'un qui connaît l'économie, je le sais. Voilà. Alors après, il peut y avoir des idéologies, mais elle connaît l'économie. Je dis que connaître l'économie, ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait ce que c'est qu'un spread de taux, qui sait ce que c'est que l'agence France Trésor, qui sait ce que c'est qu'une adjudication de dette publique française, qui sait ce que c'est que d'avoir le surin des marchés dans le dos à un moment où vous n'inspirez plus confiance, qui sait ce qui se passerait si l'euro était mis en risque à cause d'une perte de confiance et d'une perte de patience de la part de nos partenaires du nord de l'Europe, oui, qui sont aux alentours des 65 ou 60% de dette publique. Elle sait. Il y en a sûrement qui ne savent pas, qui pensent que, pouf, mais il y en a qui savent. Benjamin fait partie de ceux qui savent. Oui, et Aurélie Trouvé fait partie de ceux qui savent.
Eh bien,
ce qui veut dire que ce ne sont pas des incompétents.
Non, mais, voilà. Non, mais non, j'entends. Mais j'aimerais que l'on puisse avoir des idées de politique sociale.
Je ne crois pas, moi, à ce programme. Mais,
ça ne
le
soit
pas.
Voilà. Mais qui soit compatible avec le fonctionnement de l'économie et la confiance des entrepreneurs et des investisseurs.
Benjamin, réagissez si vous voulez. Pas trop long pour que la parole circule.
Je ne vais pas être trop long.
Et Laurent Wronski.
Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Moi, je n'en veux pas à l'entreprise, hein, et je sais ce que l'entreprise est capable d'apporter à l'économie. Bien, mais je pense que vous serez d'accord avec moi. L'entreprise n'est pas une fin en soi. Hein. L'entreprise, c'est un des acteurs de la vie économique qui doit se reproduire dans les meilleures conditions possibles en produisant autour de soi du bien-être, c'est-à-dire du plein emploi, de la longévité en matière de santé, etc. Bien, donc la discussion, elle est là. Hein, personne à gauche ne veut s'en prendre aux entreprises. Au contraire, ils ont peut-être tort, hein, mais ils pensent que le meilleur moyen d'aider l'entreprise, c'est un ensemble de mesures qui sont celles qui sont là-dedans, plutôt que autre chose. Autrement dit, pour le dire en clair, c'est d'assurer une demande à travers les salaires. C'est un programme dans son essence keynésien. Vous pouvez contester ça, mais ils en veulent l'entreprise. Non, mais... Quant à la taxation, c'est pas d'abord sur l'entreprise qu'elle porte. C'est sur les hauts patrimoines, c'est sur les riches. Chiffrez, et vous allez voir. Y a-t-il prévu une augmentation de l'impôt sur les sociétés ? Non. Non.
Non, il y a une hausse du coût du travail par le SMIC et une hausse du coût du travail.
Oui,
par la réindexation des salaires sur l'inflation.
Il y a une hausse du coût du travail par le SMIC, mais comme vous le savez, on ne revient pas sur le fait que jusqu'à 3 SMIC, les charges patronales sont annulées. Bien.
Allégées. Donc, elles ne sont pas annulées à 3 SMIC.
Oui, pratiquement annulées.
Non, elles sont annulées à 1 SMIC.
Donc, regardez bien le programme. C'est les riches. Lisez Zucman, qui a travaillé sur ces questions, qui est un collègue de Piketty. L'essentiel de la taxation va porter sur les revenus, sur les patrimoines, au-dessus de 12 millions d'euros. Bien. Donc, je veux dire, vous pouvez vous opposer à ça.
Non, mais
on
est d'accord sur un point. Et ça est le point, l'accord qui me semble absolument fondamental. Si on veut qu'il y ait un consensus national autour de l'entreprise, il faut que le travail paye.
Oui.
Ce que le travail ne paye pas, c'est une rupture de la promesse sociale et de la promesse républicaine. Le travail ne paye pas assez. Or, l'analyse que nous sommes nombreux à faire sur le fait que le travail ne paye pas suffisamment, c'est le fait que les charges sont trop lourdes, que la totalité de notre modèle social repose sur les salaires, et tout simplement parce que l'on a imaginé un modèle social partant de chômage de masse. Il faut que notre modèle social repose sur d'autres points. Je ne comprends pas pourquoi nous ne pouvions pas, ensemble, être d'accord sur un report sur une TVA sociale, notamment pour faire payer les fameux 100 milliards de déficit commercial dont vous parlez.
On développe juste après ce point, si vous voulez bien. On a 1 minute 30 avant de marquer une pause, Laurent Wronski, par rapport à nos échanges depuis le début de cette émission. Là, Benjamin nous disait, c'est d'abord la taxation des plus riches et des patrimoines qui sera concernée plus que les entreprises.
L'impôt sur les sociétés n'est pas touché.
L'IS n'est pas touché. Il y a la réindexation des salaires sur l'inflation, la hausse du SMIC de 200 euros, qui quand même fait partie des éléments qui impactent le coût du travail. Il y a la CSG progressive, là, ça peut impacter les salaires nets. Il y a la taxation des super-profits, toutes les entreprises ne sont pas concernées. La hausse des cotisations retraite, a priori, c'est tous les actifs qui sont concernés. Les transactions financières, bon là, on est sur autre chose. Les heures supplémentaires qui seront taxées davantage. Oui, Laurent...
Sauf erreur de ma part, il n'y a aucune nationalisation. Hein.
Non.
C'est pour parler d'entreprise, vous voyez. Donc, modérez ce que vous dites, regardez le programme.
Il n'y a pas de nationalisation, non. Oui, Laurent, si on a une petite minute, là,
alors, juste 40 secondes,
un teasing.
Court,
hein, bon, teasing, alors teasing.
Il va falloir être concis.
Bon, sinon, je marque la pause tout de suite, vous préférez ?
Très bien, faisons ça.
On fait ça comme ça. On marque la pause tout de suite.
Peut-être juste dire quand même à Benjamin Carrière que quand on est à 6 points de chute de la bourse, avant même que quoi que ce soit passé, c'est que quand même,
vous avez... Il y a un problème avec les décisions du président.
Il y a un problème avec les décisions.
Je
le président, je suis d'accord.
Alors, sur les milieux
Léonidas, là, effectivement, je rejoins. Je pense que la réaction de marché est d'abord une réaction à la décision d'Emmanuel Macron.
Évidemment.
Que ils sont trop frais, ces programmes. Les 500 points de recul du CAC de la semaine dernière, on ne connaissait pas le programme de. Bon, vous pouvez imaginer globalement, mais je crois que le choc politique, c'est l'annonce de la dissolution. Après viendra la suite, oh là là. Mais c'est vrai que le spread Bund OAT était à 45 points de base lundi dernier, il est à 80 aujourd'hui. Voilà. C'est pas, il n'y a pas le feu, mais c'est notable.